La langue occitane serait menacée, figurez-vous. C'est ce que nous dit une enquête pilotée par l'Office public de la langue occitane. Sa présidente est en ligne avec nous. La langue occitane, à défaut de la parler, on va en parler ce matin.
Ben, organisa maquedi, en fait, dis la Bertan, il passe UDI, hein, qui sont 13 jours de stage en Seguin, et qui sont en fait la deuxième période, la deuxième temporaire de la formation qui a bien au mois de mai.
Bonjour Charline Claveau.
Bonjour.
Alors je ne vais pas vous demander de nous traduire, mais peut-être, tiens, juste comme ça, est-ce que vous pouvez nous dire bonjour en occitan?
Oui, bien sûr. Ça, on dit Adichat. Je pense que vous l'avez entendu régulièrement. Voilà.
Adichat. Adichat. Alors je l'ai dit, hein, vous pilotez l'Office public de la langue occitane. On va parler ensemble de l'occitan ce matin. On va faire découvrir cette langue à ceux qui ne la parleraient pas. Déjà, juste comme ça, occitan, languedoc, est-ce qu'on parle de la même chose, Charline Claveau?
Oui, absolument. En fait, l'occitan, c'est une langue romane. On dit occitan ou on peut dire également la langue d'oc.
Langue d'oc, à ne pas confondre avec la langue d'oeil, hein, qui, elle, est parlée dans la partie nord de la France. Hein, c'est bien ça?
Oui, absolument.
Alors, je crois que le catalan d'aujourd'hui, et on l'a entendu d'ailleurs, hein, est-ce qu'il se rapproche le plus de l'occitan?
Alors voilà, le catalan et l'occitan sont des langues linguistiquement très proches. Et il y a même eu quelques débats pour savoir si on pouvait effectivement distinguer les deux langues. Mais aujourd'hui, les linguistes ont tranché et donc on parle bien de deux langues différentes.
Deux langues différentes. Vous nous avez dit la langue romane il y a quelques instants. Est-ce qu'on peut faire un tout petit point d'histoire d'ailleurs sur l'occitan avant d'en venir à votre étude? Ça remonte à quand cette langue?
Alors, c'est une langue qui est apparue, on va dire, après la chute de l'Empire romain. C'est une langue qui a connu son apogée entre le XIe et le XIIIe siècle et qui a été langue administrative et juridique concurrente du latin pendant une bonne partie du Moyen-Âge, en tout cas dans tout le sud de la France. Et c'est une langue qui a perduré en termes de nombre de personnes qui la parlaient très longtemps, jusqu'à ce qu'à peu près à partir du 19e siècle, on commence à avoir une politique assez agressive, entre guillemets, vis-à-vis des langues régionales pour imposer le français. Mais pour autant, aujourd'hui, l'occitan, c'est la langue régionale la plus parlée en France.
Ah oui, tout de même. Vous avez parlé de l'âge d'or, 11e, 13e siècle. Est-ce que la littérature n'a pas contribué, je pense, au troubadour, à la faire connaître et à son apogée, la mettre à son apogée?
Alors absolument, vous avez raison de parler des troubadours avec le mouvement littéraire qui a inventé notamment, on dit parfois que c'est ce qui a inventé l'amour, donc le fin
amour. Oui, l'amour pour toi.
Voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs intéressant d'un point de vue de la femme, puisque l'amour courtois, c'est ce qui fait passer la femme d'un statut d'objet un peu soumis au désir de l'homme à, au contraire, une femme qui doit être gagnée, qui doit être courtisée, et donc qui reprend un petit peu la main sur ses désirs et sur elle-même vis-à-vis de l'homme. Donc c'est voilà, l'amour courtois a contribué un petit peu à faire évoluer cette image de la femme. Donc c'est plutôt intéressant. Et en termes de littérature, vous avez aussi quand même un prix Nobel de littérature qui est occitan, puisqu'il s'agit de Frédéric Mistral.
D'accord, Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature. Ben voilà, des bonnes raisons de nous pencher ce matin sur l'occitan. On en parle avec vous, Charline Claveau. Je rappelle à ceux qui nous rejoindraient que vous pilotez l'Office public de la langue occitane. On en parle parce que vous avez publié une étude. Et cette étude, nous dites-vous, illustre, met en avant un point. Forcément, la langue occitane est de moins en moins parlée. Elle est parlée dans le sud, on a dit, dans le sud de la France, de façon un peu plus précise.
Alors, la zone, ce qu'on appelle nous la zone occitanophone, c'est une zone qui s'étend, on va dire, de la Gironde jusqu'aux vallées italiennes. Donc, il s'agit d'une langue qui est transfrontalière, hein, parce que c'est une langue qui est parlée également en Italie, mais aussi au Val d'Aran, donc en Catalogne, justement. Et donc, toute cette zone-là est occitanophone. Nous avons réalisé l'enquête sur une partie de cette zone-là, la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine, et le Val d'Aran. Donc nous n'avons pas enquêté effectivement l'ensemble de la zone occitanophone. Par contre, à partir de notre enquête, on peut effectivement faire des extrapolations qui nous donnent voilà, une idée assez précise du nombre de personnes qui parlent l'occitan.
Et alors, combien?
Alors, vous disiez que effectivement, ce que nous apprend l'enquête, c'est que c'est une langue qui est menacée de disparition. En vérité, on le savait depuis quelques années déjà, puisque ce genre d'enquête est menée, alors plus ou moins partiellement, plus ou moins différemment depuis plusieurs années. Les dernières dataient de 2008-2009, donc il y a à peu près 10 ans. Et effectivement, si on s'en réfère à ce que dit l'UNESCO, l'UNESCO dit qu'une langue est en danger à partir du moment où moins de 30% d'habitants du territoire concerné parle la langue. À partir de 30% de personnes qui parlent, vous pouvez considérer que votre langue est sauvée, entre guillemets. Or, les précédentes enquêtes montraient une moyenne qui était plutôt de l'ordre de 11 ou 12. Donc, si vous voulez, effectivement, oui, cette enquête confirme, en passant de 11 à 12% à une moyenne de 7% de gens qui la parlent, que la langue continue d'être menacée, quand bien même aujourd'hui on met en place des politiques publiques, les collectivités territoriales et l'État, pour tâcher de la sauver et d'augmenter le nombre de locuteurs. Donc effectivement, l'une des premières lectures, on va dire un peu pessimiste de cette enquête, c'est de dire on continue à perdre des gens qui parlent, donc la langue continue d'être menacée. Néanmoins, on peut avoir quand même une lecture un peu plus positive de cette enquête, puisqu'on a quelques indicateurs intéressants. Le premier indicateur qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a certains départements qui arrivent à maintenir le nombre de locuteurs. C'est le cas, par exemple, des Pyrénées-Atlantiques, et vous avez également le Tarn qui s'en sort pas mal. Et généralement, on voit que ce sont des zones où l'enseignement a été beaucoup développé. Après, tous les départements n'ont pas le même niveau de locuteurs. Vous avez par exemple la Lozère, qui est à 22% de gens qui parlent la langue. Vous avez également la Charente-Limousine, qui a un nombre de locuteurs aussi élevé. Donc c'est assez hétérogène sur le territoire. Mais la bonne nouvelle, c'était vraiment de voir que dans certains endroits, on arrive à maintenir, ce qui veut dire que les politiques publiques ne sont pas vaines. Et effectivement, c'est très lié au développement de l'offre d'enseignement, que ce soit de l'enseignement public ou de l'enseignement privé associatif. Et là, on parle vraiment d'enseignement bilingue ou immersif.
On va y venir à tout ce que vous faites effectivement pour promouvoir et assurer la transmission de l'occitan. Est-ce que vous pouvez nous faire tout de même une photographie du locuteur type aujourd'hui?
Oui, alors le locuteur type aujourd'hui, c'est un homme déjà, qui est âgé de plus de 60 ans, on est en moyenne à 66 ans, dans une zone rurale. Et c'est là où effectivement on a évidemment un point d'alerte, c'est que vous avez une pyramide des âges, on va dire, qui n'est pas en faveur du renouvellement un petit peu de la langue, puisque vous avez des personnes âgées plutôt qui parlent la langue, même si effectivement, après il faut savoir que l'enquête ne portait que sur les personnes âgées de plus de 15 ans. Donc effectivement, nous n'avons pas les chiffres pour les générations qui ont été scolarisées, qui sont scolarisées actuellement, qui ont moins de 15 ans. Voilà, après, ce qui est intéressant et ce qui est un point un peu inédit de cette enquête, c'est que pour la première fois, on voit que la transmission de la langue au sein de la famille, ce qui est quand même un vecteur de transmission très important, augmente. Et c'est la première fois. Et cette transmission augmente sensiblement puisqu'on gagne 9 points. Et ça, c'est intéressant parce que ça signifie que là où les gens ne souhaitaient pas transmettre la langue à leurs enfants ou à leurs petits-enfants...
On avait un peu honte, non, du patois, du parler local, ouais.
Voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, le phénomène de la vergogne, c'est-à-dire la honte. On considérait pendant longtemps que voilà, c'était un patois, qu'il fallait pas le transmettre parce que c'était un frein un peu à l'ascension sociale. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une réhabilitation de la valeur de la langue, et c'est certainement lié au fait que désormais on travaille aux côtés de l'État pour qu'elle soit développée au sein de l'école. Donc il y a quelque part comme une reconnaissance officielle pour dire que cette langue est bonne à être transmise, et donc on voit que le fait de réintroduire cette langue au sein de l'école, eh ben ça on va dire ça transfère un petit peu aussi au sein des individus et de la famille qui vont être plus promptes à transmettre la langue à leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc ça, c'est très important pour nous et c'est aussi très symbolique.
Oui, pardonnez-moi, pourquoi c'est important absolument de sauver l'occitan? C'est le folklore qui est en jeu?
Non, absolument pas. Je pense que, enfin, nous, on a justement une vision assez différente de cette vision-là, qu'il faudrait conserver des traditions ou du folklore. On n'est pas dans une vision forcément patrimoniale ou muséographique, mais je vais vous poser une question et tout de suite vous allez répondre. Pourquoi c'est important de conserver une langue dans les Andes ou qui est une langue locale. En fait, pour tout le monde, ça semble évident de devoir conserver le patrimoine linguistique ailleurs que chez soi, parce que ça nous semble très exotique, etc. Mais dès qu'il s'agit des langues, en fait, qui nous sont extrêmement proches, on fait moins attention. Voilà. Mmh. Et ça c'est très intéressant. C'est de la même manière que ces gens qui parlent une langue régionale, en fait, ce sont des gens qui sont bilingues. Et ce mot-là n'est jamais employé, alors qu'il s'agit vraiment de langue et de bilinguisme. Mais voilà, il y a tout un travail de revalorisation à faire. Vous avez raison de dire que parfois on pense que finalement ce serait le sens de l'histoire ou du progrès que d'abandonner ces langues-là. Or, nous, on considère qu'en fait, ce qui est intéressant avec ces langues, c'est qu'il y a aussi des cultures qui vont avec et que de regarder sa propre diversité culturelle, de considérer qu'on est finalement, on n'est pas tellement un monolithe comme ça de culture uniquement francophone, française, mais qu'on est aussi empreint de diversité, que cette diversité, elle vient de l'endroit même où on vit, ça peut être très intéressant.
D'ailleurs, certaines mauvaises langues disent que c'est l'intérêt de l'Europe, d'ailleurs, de promouvoir ces particularités régionales pour casser justement le côté monolithique de la nation. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous souscrivez ? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Non, je pense qu'effectivement, ça, c'est une des grandes peurs, on va dire, françaises, que de considérer que de promouvoir les langues et cultures régionales pourrait être une menace pour l'indivisibilité de la République. Et effectivement, il y a des pays frontaliers, je pense à l'Espagne, qui ont des constructions républicaines, nationales différentes de la nôtre, avec peut-être des revendications un peu plus fortes. Moi, je suis pas du tout dans cette idée que ça favoriserait un sentiment de scission, une volonté d'indépendantisme, etc. Je pense que, si vous voulez, on peut... En fait, la question n'est pas tellement de savoir nous détacher du projet national, mais plutôt qu'est-ce qui nous fait nous y adhérer. Et on peut tout à fait avoir des identités complémentaires. On peut se sentir occitan, on peut se sentir français, on peut se sentir européen, de même qu'on peut se sentir basque. Bon, et si vous voulez, en France, on a quand même un totem linguistique qui fait qu'on a du mal à accepter que finalement les identités, elles puissent être complémentaires et non pas excluantes les unes vis-à-vis des autres.
Vous avez parlé, pardonnez-moi, je vous coupe, vous avez parlé de l'apprentissage chez les moins de 15 ans. Quelles sont vos actions de façon très concrète et vos appuis sur les territoires justement pour faire cette promotion de la langue occitane ?
Alors, donc l'Office public, c'est un groupement qui regroupe l'État et les deux régions. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on travaille prioritairement sur l'école, hein, comme je le disais, pour faire en sorte qu'il y ait une offre où les enfants puissent être scolarisés en bilingue ou en enseignement renforcé. Mais le principal problème que l'on rencontre, c'est le manque d'enseignants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on propose une offre d'enseignement bilingue en occitan, on a des parents qui accrochent et qui ont envie de scolariser leurs enfants, mais on a beaucoup de mal à avoir des enseignants dans la langue. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on a mis en place un système de bourse, à la fois pour des étudiants qui souhaitent destiner à passer le concours d'enseignant en langue occitane, et à la fois pour des enseignants qui sont déjà en poste et qui souhaitent se former à la langue occitane et, on va dire, à la pédagogie du bilinguisme, et qui ensuite enseigneront en occitan. Donc ça, c'est des actions qu'on a menées. On essaie de favoriser aussi le fait que les enfants comprennent que c'est une langue qui se vit aussi en dehors de l'école, puisque c'est une langue de territoire. Donc là, on va travailler, par exemple, sur de la signalétique, on va travailler sur de l'offre culturelle, on va travailler également, par exemple, sur le fait de pouvoir leur offrir plus facilement l'accès aux livres. Par exemple, on lance un dispositif chèque livre en Nouvelle-Aquitaine. Donc on travaille avec les librairies indépendantes pour que chaque enfant scolarisé puisse se munir de son chèque de 20 euros et aller acheter un ouvrage jeunesse. Donc voilà, il y a toutes ces actions-là que l'on mène.
Et toutes ces actions, merci beaucoup Charline Claveau, sont à retrouver notamment sur le site de l'Office public de la langue occitane, www.offici-occitan.eu. Un immense merci pour vos explications, on a bien compris, hein, il ne s'agit pas du folklore. Et après tout, si c'était le folklore, il n'y a pas de raison que le folklore, on le trouve intéressant au bout du monde. C'était un argument bien choisi. Merci à vous.
Merci, au revoir.